18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U. Il est 18h, nous sommes le lundi 2 novembre et aujourd'hui, comme vous le savez, commence la première semaine d'une nouvelle période de confinement. Comme vous vous en doutez, ici à la radio et comme beaucoup d'autres structures, nous sommes obligés de nous adapter à cette situation particulière. Le format de l'émission de ce soir sera donc un peu particulier lui aussi, mais la quotidienne fera tout pour continuer pendant les semaines à venir de la manière la plus normale possible. Si vous ne pourrez pas aller la voir de vos propres yeux, ou en tout cas pas dans l'immédiat, ce soir, nous vous parlons d'une exposition qui se tient au Comédia. Il s'agit de Féminae, une exposition vente 100% féminine, où 12 artistes, peintres et sculptrices, émergentes et de renommée, y sont présentes. En première partie de cette émission, je vous propose donc d'écouter Lucille Fontaine, assistante de galerie au Comédia, qui nous explique l'exposition. Vous retrouverez également les voix de deux artistes, Cali Rezo, puis Florence Lemigre, jointes toutes deux par téléphone la semaine dernière. Lucille Fontaine, vous êtes assistante de galerie au Comédia et depuis 10 septembre, vous accueillez une exposition 100% féminine.
Oui, alors effectivement, le Comédia accueille l'exposition Féminae. Donc, nous avons sélectionné 12 artistes nationales et internationales, de renommée nationale et internationale pour cette exposition. L'objectif étant de remettre les femmes à la place qui leur convient sur le marché de l'art et en exposition, puisqu'elles sont encore malheureusement sous-représentées. Comme on a pu l'expliquer lors de notre ouverture, il faut savoir par exemple qu'au-delà de 30 000 euros de revenus, il n'y a plus une seule artiste femme dans la liste des artistes ayant ce type de revenus. Et donc notre objectif aujourd'hui est de montrer un panorama de la création contemporaine féminine, de la qualité de cette création contemporaine et puis surtout, comme je le disais, remettre les femmes sur le devant de la scène, là où elles ont également toute leur place. Toutes les artistes que vous avez ici présentées et exposées pour la vente ont très très bien réagi, étaient extrêmement heureuses. Si certaines considèrent qu'elles n'ont pas particulièrement de soucis à exposer leur travail et à le vendre, d'autres montrent encore des signes de fragilité et expliquent qu'il est encore compliqué de vendre son travail en tant qu'artiste femme, qu'il y a encore des préjugés, des stéréotypes qui ont la peau dure. J'ai eu le sentiment qu'il y avait du lien à se créer autour de cette exposition, une certaine émulation, un certain sens commun également dans le fait d'être dans ce même bateau et dans cette lutte pour la reconnaissance du travail des femmes. Florence Lemigre et Nansky l'ont d'ailleurs souligné dans certaines interviews que nous avons proposées sur notre site où elles le décrivent très bien, ce sentiment d'être unis par la féminité finalement autour de cette démarche artistique. Pour le moment, les visiteurs sont extrêmement contents. Ils nous disent toujours être séduits par ce qu'ils voient ici au Comédia. Ils sont agréablement charmés par l'exposition femmes. Certains ont même dit, on pouvait sembler sceptique à l'idée d'avoir une expo 100% femme, mais on est absolument ravis. Et l'idée, encore une fois, c'est de montrer que la création artistique, elle n'est pas que masculine, elle est également féminine. Finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est ramener, encore une fois, les femmes à leur place, à une parité qu'on aimerait totale entre artistes masculins et féminins. En tout cas, les retours sont très très positifs. Pour le moment, on est assez égalitaire, il faut le dire, sur les visiteurs. On a à la fois des femmes et des hommes. C'est vrai que souvent, la visite se fait plutôt en groupe, que ce soit en couple, en famille, entre amis, entre collègues. Donc ça amène aussi une certaine mixité. Et c'est vrai que là-dessus, le Comédia a toujours eu de la chance. C'est une galerie qui n'a pas une clientèle prédéfinie et qui est complètement paritaire là-dessus. Thank you.
fait, je considère qu'il est plus difficile d'être une femme que d'être un homme dans notre société, en général, dans de multiples domaines. Et puis, ça m'étonne toujours qu'on parle de femme artiste, alors qu'on entend rarement homme artiste.
Oui.
Donc, à partir du moment où il y a ce problème, c'est un problème plus en amont, qui est un problème d'égalité homme-femme, plus encore que simplement dans le domaine de l'art. Le fait que j'ai commencé par prendre dès le départ un pseudonyme unisexe en dit déjà pas mal sur notre époque. Il y a une ambiguïté dans mon pseudonyme, ce qui fait que il m'est arrivé assez fréquemment que des échanges écrits commencent entre guillemets normalement, et à partir du moment où le correspondant découvre que je suis une femme, ça prend une autre tournure. La relation n'est plus exactement la même. Ça parle de moi plus que de mon travail. Et ça me gêne énormément. Donc oui, c'est plutôt fréquent, mais par écrit. Le titre de l'exposition était un titre regroupant des personnes, mais j'espère que j'ai pas été choisie parce que je suis une femme, et je pense pas, puisque j'ai déjà exposé avec le Comédia. Donc c'est plus, c'est mes peintures qui ont été choisies.
À une exposition 100% féminine, entourée d'artistes engagés avec des univers forts, forcément, je ne fais que m'enthousiasmer et de participer aussi à la prise de conscience de vrai à l'égalité homme-femme, qui est vraiment une problématique actuelle. Bah, du coup, forcément, j'étais partante, quoi. Enfin, ça résonnait carrément en moi. En fait, forcément, à l'heure actuelle, il y a toujours une problématique. Parce que déjà, pourquoi devoir préciser si on est une femme artiste? On demande jamais à un homme s'il est... Enfin, un sculpteur, on va pas préciser si c'est un sculpteur homme. Or, en fait, je sais pas, dans les questions, voilà, vous êtes une femme artiste, etc. Oui, je suis genrée, mais avant tout, je suis artiste, en fait. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de le préciser, en fait. L'absence d'égalité homme-femme, c'est une réalité permanente. Donc, je vois pas pourquoi le monde de l'art échapperait à cette question, à cette problématique, en fait. Hein. Dans l'art comme ailleurs, j'ai envie de dire que de façon systémique, les femmes sont discriminées et aussi leur travail parfois invisibilisé. Quand on m'a proposé de participer à cette exposition Féminae, je me suis dit que ça œuvrait aussi dans ce sens, et que c'était pour une reconnaissance indiscutable de la femme en tant qu'artiste à part entière, et que c'était bien que cette exposition existe, et qu'elle montrait aussi qu'il y avait peut-être elle soulevait que la problématique, elle est bien existante, en fait. Et je pense que le choix d'artiste 100% féminin complètement assumé par l'équipe du Comédia, ça montre bien qu'il faut continuer de défendre cette diversité des artistes femmes, pour qu'il y ait une visibilité de leur travail.
Thank you.
C'était Tintinnabulum de Chapelier Fou. Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U. À l'instant, vous entendiez Lucille Fontaine, assistante de galerie au Comédia, mais également deux artistes exposés dans le cadre de l'exposition Féminae, Cali Rezo et Florence Lemigre. Tout de suite, Cali Rezo, que nous avons joint au téléphone la semaine dernière, nous parle de son parcours, de son travail en tant qu'artiste peintre, mais également de la manière dont elle adapte celui-ci à la situation sanitaire.
Moi, je dessine depuis toujours, mais la peinture, et notamment la peinture abstraite, c'est plus récent. Disons que j'ai commencé quand j'ai eu mon atelier, vraiment, donc il y a 5 ans. Là, vraiment, j'ai pu commencer à travailler en plus grand. Après, j'ai toujours été soit graphiste, soit illustratrice dans ma vie. En fait, moi, j'ai d'abord travaillé dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision pendant plusieurs années. Puis après, dans l'édition et la publicité, j'ai produit des couvertures de livres, des affiches, des brochures, des choses comme ça. Et en fait, après 20 ans de création d'images quasi photoréalistes, j'ai complètement opéré un tournant et je me suis orientée vers la peinture abstraite. En 2007, il y a eu comme une assez grosse crise et que, comme je travaillais pour l'édition, beaucoup de maisons d'édition se sont rachetées les unes les autres, ont fini des séries qui étaient déjà en cours d'édition et puis après ont arrêté en fait de faire appel à notamment des graphistes pour les couvertures. Beaucoup d'utilisation de photos maintenant et ça s'est un peu tari. Mon travail s'est tari de lui-même à cause de cette crise. Et comme moi, je voulais continuer à faire des choses, je me suis remise en question à ce moment-là. Donc ça a été un peu un déclencheur et peut-être une chance, finalement, de bouger. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est dans quelque chose d'établi, de dire « ça, j'arrête ». Donc du coup, ça montre aussi qu'on peut... évidemment, là, je suis restée dans un domaine artistique, mais on peut quand même évoluer beaucoup. Et que c'est pas parce qu'on a fait 20 ans... quelque chose dans une direction qu'on ne peut pas complètement réorienter sa vie. Et je pense que c'est positif et qu'il ne faut pas s'enferrer si jamais on n'a pas, ça paraît bête à dire, mais assez de joie dans ce qu'on fait. Donc, même si la période actuelle est un peu étrange, moi je ne regrette pas d'avoir choisi de complètement changer d'orientation. Je travaille grand, plus mon corps est sollicité, c'est plus juste la main, c'est vraiment tout le corps, donc c'est moi en fait qui deviens un pinceau. Et pour que ça fonctionne, il faut de la concentration et surtout de la respiration. Si je respire mal, mon trait ne sera pas fluide. Donc à ce moment-là, je pense que je ne suis pas trop dans l'émotion, mais plutôt dans la respiration et le fait de me concentrer, d'essayer plutôt de penser à rien. Même juste au trait dans lequel je suis, au moment présent, en fait. Pour faire ces motifs-là qui font partie de la deuxième étape, je fais des recherches, beaucoup de recherches avant en plus petit, donc sur des carnets ou sur des petits formats, en général sur des carnets, où je cherche dans des mouvements anciens, dans des langues anciennes. Après, il peut y avoir des tas de choses qui m'inspirent, aussi bien des pétroglyphes découverts, que des images scientifiques aussi, des images de l'espace notamment. Disons, tout ce qui peut m'inspirer et qui peut aboutir à des signes, je le mets dans mes carnets, je le garde bien précieusement et après, je l'exploite dans mes peintures. Je suis inspirée de... Notamment, j'ai été pas mal influencée par un groupe japonais qui s'appelle le Boku Jinkai. C'est un groupe des années 50. Ça m'a pas mal influencée pour tout ce qui est utilisation des signes comme ça, mais pas forcément pour leur sens littéral. Simplement pour leur aspect visuel puissant. Mmh. Donc, je ne parle pas le japonais. Mais la calligraphie chinoise et la calligraphie japonaise m'inspirent pas mal, entre autres. Parce d'ailleurs, oui. des artistes comme Klein ou Soulages sont liés à ce mouvement. C'est quelque chose qui existait. Et une peintre comme par exemple Fabienne Verdier, dont j'aime beaucoup le travail, me paraît pour moi être un peu une héritière de beaucoup de Jinkai. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là que j'ai mes influences. La couleur n'est pas vraiment nécessaire parce que déjà, rien qu'avec les noirs et les blancs, j'ai déjà beaucoup de travail de construction, d'équilibre, de choix de motifs, de toutes les différences aussi entre les mats, les satinés, les brillants. Enfin, ça fait déjà beaucoup de choses. Donc je considère que la couleur sera un peu inutile pour l'instant. Moi, je me sers de mes émotions pour peindre, mais après, je laisse à l'observateur le choix des siennes, en fait, lorsqu'il est devant ma peinture, parce que déjà, je ne donne pas de titre explicatif à mes tableaux, ce sont des numéros, des années, et j'ai pas trop envie de me substituer, en fait, au vécu des gens, parce qu'ils peuvent projeter comme ça leurs propres sentiments en fonction de leur vie, en fonction de ce qu'ils voient. Donc, en fait, s'il y avait un message, il serait plutôt... dire aux spectateurs d'être eux-mêmes, de ressentir sans avoir besoin qu'on donne une explication, de se faire confiance en fait. Parce que les gens oublient de se faire confiance devant l'art. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire de l'art. On projette ses émotions à soi, encore plus peut-être dans l'art abstrait. On reconnaît des choses qu'on peut connaître soi-même. Ça n'influence pas le travail, ça influence ce que va devenir le travail. C'est-à-dire, je peux toujours continuer à peindre et stocker des peintures. Après, il y a un moment où j'aurai plus de place dans mon atelier. Mais je pense qu'il faut aussi que le monde des galeries et le monde de l'art se remettent en question. Il faut changer de modèle, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie aussi de faire des choses en ligne. J'ai créé un atelier virtuel, mon atelier réel en virtuel, pour pouvoir être visité en ligne, par exemple. Et j'essaie de garder un contact avec un public, notamment via Instagram, où là, il y a une grande communauté de peintres et de galeristes. J'essaie d'enregistrer des sons aussi pour être plus proche des gens. Mais je crois qu'il faut inventer des nouvelles choses et des nouveaux systèmes. Donc réfléchir peut-être à ça. Et peut-être que je suis en train d'y réfléchir, voir comment ça peut évoluer.
Vous venez d'écouter le titre « Entendre la forêt pousser » sur Radio U. Juste avant, c'était l'artiste peintre Cali Rezo exposé au Comédia dans le cadre de l'exposition Féminae. Vous êtes sur le 101.fm et vous écoutez « C'est vous qui le dites ». Dans un instant, une autre artiste présentée dans cette exposition nous parle de son travail. Il s'agit de Florence Lemigre, artiste céramiste, jointe également par téléphone la semaine précédente dans son atelier en Normandie.
le grès chamotté et la faïence principalement. Et après, j'ai choisi comme médium d'émailler mes pièces. Et donc après, ça c'est une autre technique qui arrive dans un temps après déjà une première cuisson, après une deuxième cuisson, etc. C'est surtout, en fait, j'ai choisi ce médium parce que je trouvais que c'était très riche au niveau des possibilités colorielles et des textures. En fait, c'est comme ça qu'en fait ça m'a intéressée et que je me suis lancée là-dedans. Mais avant tout, au départ, je suis sculptrice et voilà, j'aurais pu choisir de patiner mes pièces, par exemple, ou de les laisser brutes, discuter. Mais je trouve que l'émail, en fait, c'est une source incroyable de possibilités. En fait, c'est venu plus tard, quand j'ai cherché un atelier où je pouvais avoir la possibilité de travailler. Parce que chez moi, ce n'était pas hyper pratique au départ. Et là, en fait, c'est un professeur qui m'a initié à la céramique et notamment à la cuisson au raku, qui est une technique coréenne du XVIe siècle. Et même si, a priori, je n'étais pas forcément fan, quand on m'en parlait, je n'avais pas forcément envie de tester cette technique de cuisson qui est assez particulière parce qu'en fait on fume les pièces dans la terre, on les recouvre de copeaux de bois et tout. Je trouvais que c'était un peu trop ethnique, hein, je sais pas, j'avais pas l'impression que ça allait me plaire et je suis allée à un premier raku et là j'avoue que en fait j'ai eu carrément un coup de cœur. Enfin ça m'a vraiment ça m'a complètement bouleversée, ça m'a passionnée. Je trouvais que c'était fascinant, enfin, le feu, quand on ouvre le four, c'est incandescent, on a l'impression de rentrer dans un volcan. Enfin, tout ça, j'ai trouvé que c'était assez magique et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus jamais arrêté. Oui, j'habite en Normandie, dans un tout petit village qui s'appelle Assigny. Peut-être 300 ou 380 habitants. Et moi, je suis entourée d'arbres parce que j'habite dans la ferme familiale. Et arbres de 400 ans, il y a des arbres partout. Et la mer est à 1,5 km. Et j'avoue que j'y vais pratiquement tous les jours me balader, me ressourcer. Alors là, c'est des plages avec des galets, avec des falaises abruptes, immenses, mais magnifiques. Et bah oui, moi, la mer, moi, j'ai envie de dire que je suis née dedans, quoi. Tanguéré, en latin, ça veut dire « ne me touche pas ». Donc c'est vraiment le nom de ces pièces, il n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment une façon de dire déjà « regardez-moi, appréciez-moi, mais ne me touchez pas ». Enfin, de façon, quand je parle des océans, et puis aussi tout simplement par rapport à ma pièce aussi. Et pour pas qu'on me la case comme ça, qu'on regarde en fait, qu'on admire nos océans, qu'on en prenne soin, mais que je sais pas, qu'on mette pas plein de déchets. Enfin, c'est pas forcément la façon dont je peux travailler ou sculpter une autre type de pièce. Et à partir de ce moment-là, quand la pièce, par exemple, on peut considérer qu'elle a accepté cet état, que finalement elle va sécher, mais elle risque toujours de peut-être se fissurer, je sais pas, qu'il se passe quelque chose qui n'était pas forcément attendu, mais parce qu'en fait c'est un peu tout est un peu contraint. Elle va, après la cuisson, on va dire que elle va donner à voir quelque chose qui peut paraître aérien, assez léger, alors qu'en définitive elle est passée par plein d'étapes vraiment contre nature. Et c'est une façon aussi de donner à voir de façon un peu onirique tout ce que nous, en fait, on peut on fait à nos océans en n'en prenant pas soin avec les sacs plastiques, avec et que finalement la pièce, elle est, on peut penser ou pas qu'elle est belle, mais en tout cas elle a l'air légère, elle a l'air paisible, et alors qu'en définitive elle est passée par plein d'étapes. C'est avant tout, en fait, pour moi, un travail symbolique de résilience, c'est-à-dire de faire que des traumatismes de la vie, en fait, on les porte en soi, mais on continue d'avancer. Et là, j'ai voulu le travailler de façon ludique, parce que l'équipe Buto, j'ai envie de dire que c'est un nom comme ça, d'abord qui rappelle les résurgences de l'enfance, après à sourire, c'est je trouve que c'est mignon comme mot, c'est assez rigolo, et en plus je les travaille de façon très très colorée, hein. Mais je travaille toujours sur la dualité, parce que le cube Buto, il a une partie généralement très enfumée, où j'essaie de travailler dans les gris, des noirs profonds, et de l'autre côté la face est très lumineuse, colorée, avec des textures et des recherches au niveau des émaux.
C'était le titre de Chapelier Fou, Cyclope et Othello, à l'instant sur Radio U. Merci à Lucille Fontaine, assistante de galerie au Comédia, Cali Rezo, artiste peintre, et Florence Lemig, artiste céramiste, qui ont répondu à nos questions dans le cadre de l'exposition Féminae. Vous venez d'écouter C'est vous qui dites sur Radio U. Pour cette première émission reconfinée, veuillez nous excuser pour les problèmes techniques rencontrés tout au long de l'émission. Promis, on va dans le bon sens pour les prochaines. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission quand même, retrouvez-la en podcast sur notre site. Juste avant de rendre l'antenne, retrouvez la chronique radiophonique L'île aux femmes, produite par la Cœur Lab, la coordination des radios locales de Bretagne, en partenariat avec HF Bretagne. Pour celles qui voyaient leur vie et leur carrière en grand, il a fallu savoir partir. À Paris, souvent, mais aussi plus loin, comme en Amérique du Nord. Pour le 7e épisode de L'île aux femmes, Anaëlle Abasque est partie sur les traces de celles qui ont quitté la Bretagne, celles qui sont parties loin d'une région jugée trop petite pour contenir tous les rêves de ces audacieuses.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton.
Après avoir rencontré la navigatrice Marie Tabarly, j'ai eu envie d'aller voir plus loin, de faire des recherches sur celles qui ont mis les voiles, élargi et conquis de nouveaux horizons. Les voyageuses, les intrépides, les ambitieuses.
La Bretagne est un pays maritime, elle a toujours tiré sa richesse de la mer et des échanges. Et donc je crois qu'il y a quelque chose qui pousse toujours les Bretons à voyager, à aller explorer, tout en étant content souvent de revenir et de ramener plein de choses, des expériences ou des objets.
Erwan Chartier est journaliste et historien, spécialiste de la Bretagne et des pays celtiques. Je lui ai demandé quelles étaient les raisons qui poussaient les Bretonnes et les Bretons à quitter leur région au début du XXe siècle, grande période d'immigration.
Alors, c'est vrai que la Bretagne du début du XXe siècle, elle est en crise. Il y a une très forte poussée démographique, donc des familles nombreuses, une agriculture qui va rester à la traîne jusqu'aux années 60, donc peu développée, ce qui va favoriser une immigration assez massive, notamment vers Paris et la région parisienne. Pour les femmes, c'est l'époque d'immigration aussi féminine sur Paris, avec la figure de la bonne bretonne, la domestique, jusqu'aux années 50 d'ailleurs. La figure qui reste mal acceptée en Bretagne et pas si populaire, c'est Bécassine, un peu simplette, pas éduquée suivant les standards bourgeois parisiens de l'époque.
Parmi ces femmes qui sont montées à Paris, je me dis qu'il ne devait pas y avoir que des Bécassines, qu'il y en avait forcément qui ont osé partir la tête pleine de rêves et d'ambitions. Alors je me suis rendue à la maison du théâtre amateur à Rennes pour questionner Élise, sa directrice et également membre de HF Bretagne.
Salut Élise. Ça va bien
et toi?
Eh bien, Élise, moi, je suis venue te voir pour savoir s'il y avait des comédiennes qui ont quitté la Bretagne pour jouer sur les planches parisiennes ou ailleurs.
Oui, alors, comme beaucoup de personnes qui participaient à l'exode rural en Bretagne vers Paris, les comédiennes et les autrices aussi de théâtre ont pu avoir des déplacements dans leur carrière. J'en citerai peut-être deux. Une dramaturge qui s'appelle Marie Le Néru, qui est née à Brest, en 1875 et dont les pièces étaient jouées, et notamment à l'Odéon à Paris, et dont les pièces étaient au 19e et début 20e très jouées. Et puis une autre, alors comédienne, celle-ci, Marie Dorval, qui est extrêmement célèbre au théâtre au 19e siècle, une héroïne du théâtre romantique, Victor Hugo. Elle a joué dans Hernani à Paris, et peu de gens savent qu'elle est née à Lorient. Alors sans doute un peu par hasard, parce que ses parents étaient dans une troupe itinérante qui voyageait dans toute la France. Mais en tout cas, cette Marie Dorval, grande star de l'époque, est bien née à Lorient.
Pour celles qui voyaient leur vie et leur carrière en grand, il a fallu savoir partir. À Paris, souvent, mais aussi plus loin, comme en Amérique du Nord, à la conquête d'une vie libre, loin d'une région jugée trop petite pour contenir tous les rêves.
On a quelques Bretons qui sont aussi partis jusqu'en Californie, notamment Louise Rioux. Ses parents partaient travailler chez Michelin. Elle s'est retrouvée orpheline assez rapidement. Et donc, elle, c'est entre 1920 et 1930, elle arrive à Hollywood. On a quelques photos d'elle. Elle a joué aussi quelques seconds rôles dans des films de l'époque. Donc on est encore dans le cinéma muet en noir et blanc. Hein. Et puis après 1930, elle disparaît. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue.
Une fois n'est pas coutume, en essayant d'approfondir un peu plus les recherches, j'ai été confrontée au manque de sources. Même en interrogeant Véronique Lebrise, rédactrice en chef du web magazine Cinewoman et à l'origine du prix Alice Guy.
Je voulais vous rencontrer pour savoir si vous connaissiez des femmes bretonnes qui ont quitté la Bretagne pour se faire connaître à Paris dans le milieu du cinéma et de la comédie.
Ah non, à mon grand désespoir en fait, et à mon grand désarroi, je me suis aperçue que la liste de noms que vous m'avez gentiment donnée m'était à peu près inconnue. Enfin, Marie Dorval, ça me disait vaguement quelque chose. J'avais entendu parler de, alors qui est pas dans le cinéma, de Suzy Solidor, parce que j'ai vu un documentaire en fait sur les reines de la nuit dans les années 20. Donc je me souvenais d'elle, et j'avais noté qu'elle était bretonne, et vous avez fait allusion surtout à Marie de Kerstrat, voilà, dont j'avais jamais entendu parler. Donc j'ai un peu cherché, je me suis un peu renseignée, et j'ai juste découvert que ce qu'elle avait fait, c'était extraordinaire. Et je crois que je vais aller fouiller un peu plus.
Aujourd'hui, si on cherche encore des femmes comédiennes venant de Bretagne, parties faire leurs armes à Paris, on peut citer, venant de Morlaix, deux fortes personnalités. Dominique Lavanant et Brigitte Fontaine, la chanteuse qui a commencé en tant que comédienne en jouant la cantatrice chauve au théâtre de la Huchette.
Chronique du matrimoine breton.
série de reportages réalisée par la Corlab en partenariat avec HF Bretagne. À réécouter sur corlab.org.
Vous êtes sur le 100.fm. Restez à l'antenne. À 19h, les sportifs du lundi reprennent le relais à l'antenne. Bonne soirée sur Radio U.